des hommes, des femmes vous parlent sur Canal Académie.
Parcours. Une émission de la rédaction de Canal Académie.
Parcours avec ses découvertes, ses expériences, ses échecs et ses richesses.
On retrouve Virginia Crespo.
Canal Académie a le grand plaisir de recevoir aujourd'hui l'un des auteurs francophones les plus lus, les plus interprétés dans le monde. Ses pièces de théâtre sont jouées dans le monde entier. En l'année 2000, l'Académie française lui décerna le Grand Prix du théâtre pour l'ensemble de son œuvre. Nous recevons aujourd'hui Éric-Emmanuel Schmitt. Éric-Emmanuel Schmitt, bonjour.
Bonjour.
Éric-Emmanuel Schmitt, est-ce que l'on peut considérer votre dernier ouvrage qui vient de sortir aux éditions Albin Michel, Le sumo qui ne pouvait pas grossir, comme un roman ou comme un conte?
J'ai parfois un peu de mal à donner un genre à mes livres. Et parfois, d'ailleurs, les critiques aussi ont un peu de mal.
Alors, parce que pas d'étiquette.
Voilà. En fait, oui, Le sumo qui ne pouvait pas grossir, il est un petit roman où il est un récit initiatique, où il est une sorte de conte. En tout cas, il appartient à un ensemble qui s'appelle Le cycle de l'invisible, qui avait commencé avec Milarepa, qui était sur le
bouddhisme. En 97.
Voilà, qui était sur le bouddhisme. Ensuite, il y avait eu Monsieur Ibrahim et les Fleurs du Coran.
En 2001.
Voilà, où j'avais vraiment trouvé le ton, à mon avis, de cet ensemble, où le Monsieur Ibrahim était musulman, soufiste. Et puis ensuite, il y a eu Oscar et la Dame Rose.
En 2002, grand succès, immense succès.
Voilà, où cette Dame Rose se ressource dans son christianisme pour affronter l'épreuve de la maladie de cet enfant et de la mort qui s'approche. Et puis, ensuite, il y a eu l'enfant de Noé. Il s'agissait d'un prêtre catholique qui s'initie au judaïsme pour sauver des enfants pendant la guerre. Pas seulement sauver leur vie, mais sauver leur spiritualité. Et puis, voilà, c'est le dernier tome. Enfin, ça ne veut pas dire qu'il n'y en aura plus après, mais c'est le plus récent. Le sumo qui ne pouvait pas grossir, c'est donc consacré au bouddhisme zen.
Un dimanche après-midi, à l'heure de la cérémonie du thé, je rassemblai mes maigres affaires dans mon sac à dos, enfilai mes chaussures de pluie, mis mon chapeau et comparus devant Shomitsu. Maître Shomitsu. Avec le temps, à l'instar de mes confrères lutteurs, je m'étais accoutumé à appeler Shomitsu maître. Je déclare forfait. Tout ce à quoi je suis arrivé, c'est à laisser pousser mes cheveux. Au-delà de ça, zéro. Je vais partir.
Sais-tu pourquoi tu ne parviens pas à grossir ?
Impasse physiologique, la nourriture, soit je la rejette, soit je la brûle. Je ne l'assimile pas. Une malédiction génétique. Encore un sale cadeau de mes parents. Décidément, ceux-là, ils auront accumulé les bourdes. Première erreur, me faire naître. Deuxième erreur, m'équiper d'un corps qui ne profite pas des aliments.
Combien pesait ton père ?
On peut parler d'autre chose ?
On peut ne rien dire aussi.
Je vous quitte, maître Shomitsu. Il m'est impossible de devenir sumo.
Pourtant, je vois toujours un gros en toi.
Vous devez admettre qu'une fois dans votre vie, vous vous êtes trompé, maître Shomitsu. Je n'engraisserai jamais. En plus de l'empêchement physique, il y a un empêchement psychologique. Je n'ai pas de volonté.
Faux. Tu as beaucoup de volonté. Oui, tu trouves mille raisons de te soustraire à ce que tu as décidé. En réalité, tu possèdes un bloc de volonté, mais c'est de la mauvaise volonté. Dommage, car le chemin pour monter est le même que pour descendre. Quel métier exerçait ton père ?
On peut parler d'autre chose ? Après un long moment, Shomitsu saisit une noix de cajou dans un bol et me la désigna.
Je vais t'expliquer, Jun, pourquoi tu ne te développes pas. Si j'enfonce cette noix dans une terre grasse, tendre, bien remuée, il y a de fortes chances qu'elle se développe, plonge ses racines et déploie un arbre au-dessus d'elle. En revanche, si je la pose ici...
Il coucha la noix sur le sol en ciment.
Elle séchera, mourra. Pourquoi ne profites-tu pas ? Parce que tu ne peux pas te nourrir de toi. Tu t'es coupé de ton âme, posé sur un sol artificiel, une graine à même le béton. sans racines, tu ne croîtras pas.
Qu'est-ce le béton chez moi ?
L'inconscience.
Je comprends pas.
Tu agonises parce que tu as tout recouvert, tes émotions, tes problèmes, ton histoire. Tu ne sais pas qui tu es, donc tu ne construis pas à partir de toi.
Vous confondez, Maître Shomitsu. C'est vous qui me méconnaissez. Moi, je sais qui je suis.
Certes, je l'ignore, mais ça ne me gêne pas. À moi, tu peux cacher ton nom, ton origine, tes traumatismes. Ça ne m'empêche pas de vivre. Toi, si tu te les caches, ça t'empêche de vivre.
Sans intérêt, mon passé, vous seriez déçu.
Quand on dit peu, ça cache beaucoup.
Si je dis peu, c'est pour oublier.
Là est ton erreur, Jun. Ce qu'on refoule pèse plus lourd que ce qu'on explore. Aujourd'hui, tu peux partir et renoncer à ta carrière de sumo. Je ne te retiendrai pas. Cependant, j'ai peur que tu fausses aussi compagnie à ton destin. Continue ainsi, Jun. Tu n'auras pas d'avenir.
Jun est un adolescent qui refuse d'accéder à ses émotions fondamentales et qui refuse de se pencher sur son passé. Il est dans un refus de ses parents, dans un refus de sa filiation. Il ne veut pas avoir le père qu'il a eu et il ne veut surtout pas avoir la mère qu'il a, qui est pourtant merveilleuse et on le découvrira plus tard.
Un déni de lui-même, quoi.
Oui, et du coup, il est dans le déni de lui et de son histoire. Conclusion, il ne peut pas planter de racines, il ne peut rien construire.
Alors c'est drôle, c'est un maigre et puis ce maître du bouddhisme zen voit en lui un gros.
Oui, ben c'est-à-dire qu'en fait, il ne s'agit pas tant de grossir. Dans le livre, on dit il faut grossir, il s'agit de grandir. C'est-à-dire d'arriver à maturité. Et ce garçon est en fait une sorte d'anorexique mentale. C'est-à-dire, il n'a pas accès à ses émotions et à son histoire. Et quand il aura accès à ses émotions et à son histoire, il pourra non seulement grossir, c'est-à-dire prendre du poids, mais grandir, c'est-à-dire devenir un homme.
De toute façon, ça n'a pas d'importance parce que Chinto, bouddhisme tibétain, bouddhisme zen, ces sornettes et sucres d'orge, il n'y en a pas un qui vaut mieux que l'autre. Je m'étonne que vous consacriez du temps à ces vieilles lunes, ces superstitions.
Tu plaisantes, Jaune.
On n'a pas besoin de religion pour vivre.
De religion peut-être pas, mais de spiritualité, si.
Foutaise, pipeau, du vent, du bruit. Moi, je vis très bien sans ça.
Ah oui, tu vis très bien, toi.
Il marquait un point. Mon angoisse empirait et je me rendais compte. Enfin, il me semble que, par ailleurs, parce que je...
Jaune, si ce que tu dis n'est pas plus beau que le silence, alors tais-toi.
Une semaine plus tard, le temps d'oublier la honte de ma réponse idiote, je me présentais devant Shomitsu. Pourriez-vous m'aider à maîtriser mes pensées et mon corps ?
Assieds-toi sur le sol en face de moi. Bascule le bassin vers l'avant. Redresse la colonne vertébrale. Concentre-toi sur la verticalité de ta posture.
Voilà.
Ne creuse pas le ventre. Ne te contracte pas. Inspire et expire en douceur.
Voilà.
Laisse passer les pensées avec la respiration. Laisse-les apparaître. Et disparaître.
Elle se bouscule au portillon, mes pensées, elles coulent en torrent.
Maîtrise le flot.
Après une semaine d'application, puisque j'arrivais à songer plus calmement, il ajouta une tâche.
Maintenant, tente de ne penser à rien.
À rien ?
À rien.
Comme si j'étais mort.
Non. Comme si tu étais une fleur ou un oiseau de printemps. Ne pense plus avec ta conscience personnelle. Pense avec une autre conscience, celle du monde. Pense tel l'arbre qui bourgeonne, telle la pluie qui tombe.
Pendant 2 semaines, j'essayais, en vain. Mes pensées demeuraient mes pensées. Ma conscience barbotait dans ma conscience, pas ailleurs. Impossible. Nouvel échec, maître. Que faire ?
Allons au jardin.
Nous allons jardiner ?
Non. Allons au jardin zen.
En accédant au jardin zen, je faillis repartir. sur un rectangle d'une dizaine de mètres, bordé de bancs en vieilles planches, stagnaient des pierres moussues posées entre des graviers ratissés du sable peigné. C'était crétin. Non seulement ce jardin minéral ne vivait pas, mais je ne voyais pas en quoi ce travail de jardinier paresseux pourrait améliorer ma vie ou dispenser une solution à mes problèmes.
Assieds-toi et observe.
En fait, cette rencontre entre June et Chominsu, c'est la rencontre essentielle qu'on souhaite tout savoir et qu'on a parfois eue. C'est-à-dire que cet adolescent était sur un trottoir où il vendait des objets en plastique, un commerce de contrebande, et ce vieil homme passait devant lui chaque matin en lui disant « Je vois un gros en toi ». Alors, on découvre bien sûr que le gros qu'il voyait, c'était éventuellement le lutteur de sumo, le futur champion qu'il voyait dans l'adolescent. Mais la phrase fondamentale, c'est autre chose, c'est dire « Je rêve quelque chose pour toi. J'ai un rêve pour toi. » Parce que ce garçon ne rêvait plus pour lui et il s'était coupé des siens, donc il s'était coupé des autres qui pouvaient rêver pour lui. Et donc il est en train de s'isoler dans une espèce de dépression qu'il n'apercevait même pas, dans un isolement total. Et Chominsu lui offre le rêve, donc l'avenir, le futur, le possible. Et c'est ça qui est important. On va découvrir à la fin du livre que June ne deviendra sans doute pas un champion de sumo, mais il va devenir ce qu'il rêve d'être, rêve qu'il avait mis de côté.
Alors, une première remarque, Éric Manuel Schmitt, par rapport à ces récits du premier cycle de l'Invisible, une présence de l'enfant.
Ah oui.
Dans chacun de ces récits.
C'est pour moi le...
Pourquoi
le, ben parce que pour moi, l'enfant, c'est le héros philosophique par excellence. Parce que qu'est-ce que c'est un philosophe? C'est quelqu'un qui s'étonne, pose des questions et se sert de sa tête, pas de sa culture, pour répondre. C'est la définition de l'enfant. Donc, l'enfant est un être comme ça, assez dépourvu de préjugés, parce que généralement dépourvu de culture, et dont l'esprit fonctionne très très bien, et qui est plutôt en découverte et en questionnement. Alors, c'est pour moi un héros idéal qui me permet de rafraîchir des vieilles problématiques en les replaçant dans leur réalité, puisque l'enfant les découvre. Et en plus, bon, c'est vrai que je pense que j'ai gardé l'enfance en moi, puisque ça, c'est ce que me disent tous les gens qui me connaissent. J'ai ajouté d'autres âges, mais je n'ai pas quitté cet âge.
Et sans travail et sans volonté de votre part, c'est quelque chose qui est...
Si, il y a eu un travail qui consistait à passer de l'enfance à l'esprit d'enfance. C'est-à-dire... L'enfance, je l'avais perdue, fut un temps. À 20 ans, enfin, même à 15 ans, je l'ai totalement perdue. C'est-à-dire, quand j'étais un jeune homme, je ne m'étonnais plus. Je ne m'émerveillais plus. Je croyais tout savoir. Et puis, avec le temps, je me suis rendu compte que je ne savais pas, la plupart du temps. Comme dit Socrate, je sais que je ne sais rien, ou en tout cas, je sais que je ne sais pas grand-chose. J'ai réappris à m'émerveiller, à m'étonner, à suivre la leçon d'Oscar, d'ailleurs, dans Oscar et la Dame Rose, qui dit « vivre chaque jour comme si c'était la première fois ». Et à partir de ce moment-là, je suis rentré, non pas dans l'enfance, mais dans l'esprit d'enfance, c'est-à-dire une enfance réfléchie, une enfance retrouvée, une enfance réapprivoisée. Enfin, c'est le retour aux qualités de l'enfance, mais avec une âme d'adulte.
Donc, pour l'expliquer à nos auditeurs, tout commence par un déclic, une observation. J'ai perdu, il faut que je retrouve. Et à partir de là, on se met en démarche et on se met en chemin.
Oui.
Parce qu'on abîme cet esprit d'enfance, finalement.
Ah, je crois que c'est un joyau qu'on a au fond de nous. On supportait très bien dans notre enfance de ne pas savoir et de ne pas tout comprendre. Or, adulte, tout d'un coup, on ne le supporte plus. Et alors, on fait semblant de savoir et on fait semblant de comprendre.
Comment se protéger de ça?
Je pense que tout ce chemin est un chemin d'étape normal. Je crois qu'il est tout à fait normal d'arriver dans le mystère et d'être à l'aise dans le mystère et d'apprivoiser le mystère. Après, il est normal de vouloir supprimer le mystère avec l'ambition conquérante de la raison, parce que l'homme est quelqu'un qui ne supporte pas l'inconnu. Et ensuite, je pense que c'est une preuve de maturité supérieure que de se dire « Attention, il ne faut pas confondre savoir et illusion du savoir. » Et donc, ne pas croire qu'on sait quand on ignore, c'est une preuve de maturité de l'esprit. Et à ce moment-là, ça permet de retrouver l'enfance, c'est-à-dire le fait d'être à l'aise dans le mystère. Moi, ce que j'envie à l'enfant, c'est ce que j'ai retrouvé finalement à 40 ans, c'est une façon d'habiter le mystère de la condition humaine. La condition humaine est pour moi toujours incompréhensible et mystérieuse, c'est-à-dire que je ne sais pas pourquoi j'existe, je ne sais pas pourquoi je mourrai, je ne comprends pas les tenants et les aboutissants de la plupart de mes actes. Mais j'habite le mystère sans angoisse, sans paravent, avec des fausses certitudes, des fausses convictions. J'habite ce mystère avec confiance. On peut même dire, sur le versant théologique, avec foi. Et ça change tout. C'est-à-dire qu'en même temps, cette confiance que j'ai ou cette foi, elle ne se prend pas pour un savoir, elle ne délivre aucune certitude, elle est simplement un vécu du mystère. Et ce vécu, c'est parfois la joie, c'est parfois l'abandon, c'est parfois la confiance, c'est parfois l'espérance.
Ça, c'est l'état.
Ce sont les couleurs du mystère.
Les couleurs du mystère. Et les états auxquels on peut parvenir en pratiquant, comme vous le disiez, l'antidote à cette souffrance existentielle, par la confiance.
Oui, notre époque n'a au fond mis en avant que deux couleurs du mystère, l'angoisse et le refus de l'ignorance. Je respecte l'angoisse parce que je la connais et je ne suis pas à l'abri de l'angoisse malgré la confiance que j'ai. Je respecte le refus de l'ignorance parce que je suis un intellectuel et que je cherche toujours à savoir. Mais en même temps, je refuse de prétendre savoir quand tout d'un coup je sais que je ne sais plus. Or, notre grande culture du XXe siècle a été une culture de l'absurde et de la recherche du savoir au prix même de l'illusion du savoir. Donc, j'essaye de mettre en avant, mais d'une façon modeste, à travers des récits, des contes, des nouvelles, des pièces, les autres couleurs du mystère.
Dans un autre de vos ouvrages, alors, entre guillemets, dit autobiographique, Ma vie avec Mozart.
Oui, il l'est.
On vous lit page 92-93. Et si nous pouvions offrir aux auditeurs de Canal Académie la lecture de ces quelques pages par vous-même, Eric Emmanuel Schmitt, ce serait un grand plaisir.
Comment écrire une pièce de théâtre après Beckett ? De quelle façon pratiquer le roman après l'école du nouveau roman ? Par quels moyens philosopher alors qu'on déconstruit la philosophie ? Lundi soir, je m'étais égaré dans un cénacle où l'on se posait ces problèmes. Que créer aujourd'hui ? Est-ce encore possible ? Un instant, j'ai cru rêver et me retrouver coincé dans un vieux souvenir, tant la scène identique me reportait 15 ans en arrière. Lorsque, fringant étudiant, j'intégrais ma grande école, l'école normale supérieure de la rue d'Ulm, lieu mythique de l'intellectualité française par lequel sont passés quelques-uns de nos plus beaux auteurs, Péguy, Romain Rolland, Alain, Jules Romain, Bergson, Giraudoux, Sartre, Senghor, Foucault, Lévi-Strauss. Par naïveté, presque par malentendu, j'avais préparé ce concours persuadé que la vénérable institution devait être une école de romanciers, alors qu'en réalité, par un recrutement sévère, elle repère d'excellents élèves, qu'elle modèle ensuite en professeurs d'université. Mes camarades de promotion, victimes d'une confusion équivalente, du haut de leurs 20 ans, s'annonçaient sans vergogne les uns aux autres qu'ils deviendraient écrivains, programmant une œuvre de la même façon qu'ils projetaient d'avoir une femme, trois enfants, une maîtresse, un appartement à Paris et une villa avec piscine dans le Luberon. Option de standing. Au lieu de se mettre d'emblée au travail afin de rédiger le futur chef-d'œuvre, ils préféraient se rejoindre au café ou dans l'internat pour discuter en fumant. Comment écrire une pièce de théâtre après Beckett ? De quelle façon pratiquer le roman après l'école du nouveau roman ? Par quels moyens philosopher alors qu'on a déconstruit la philosophie ? En gros, cela revenait à se demander comment vivre alors que tout est mort ? Où planter sur des terres que nos aînés avec fierté ont labourées, épuisées, puis calcinées ? Par une dérive insidieuse et logique, la question virait : que peut-on encore brûler ? Quel feu nous reste-t-il à allumer ? Car ces jeunes gens dociles et cultivés, ces très bons élèves, si bien dressés, ces premiers de la classe, gentiment coiffés, se rêvaient vandales et révolutionnaires. L'intelligence résidant dans la rupture, il leur fallait contester ou renoncer à être. On leur avait enseigné l'histoire ainsi. Puisqu'ils avaient appris que leurs aînés étaient allés au bout du théâtre, du roman, de la philosophie, consciencieux, conciliants, ils tentaient d'apercevoir ce qu'ils devaient détruire. Et souffrait de ne pas le distinguer. À cette époque-là déjà, en les observant, je riais sous cap. Mozart. Au lieu de rompre, commencer par poursuivre, j'avais envie de leur crier « Mozart !» Au lieu d'abattre, apprenez à bâtir. Je gardais pour moi ce que je pensais. Mozart, imitez, reproduisez, donnez-vous des moyens. Quand vous aurez quelque chose à dire, alors vous en serez capable. Lorsqu'il parlait de forger une nouvelle grammaire, une syntaxe inouïe, des formes jamais vues, je ne pouvais m'empêcher de songer « Mozart !» Lui n'était ni novateur, ni insurgé, mais toujours original, singulier, expressif. Trimballé par son maquereau de père à travers l'Europe, il a appris la musique en Allemagne, en France, en Italie, en Angleterre. Chaque fois qu'il rencontrait un artiste important, il s'en inspirait avec curiosité, il l'ingurgitait, il le digérait, avant de le convertir en Mozart. Au cours d'une vie, chaque individu part en quête de son identité, parfois au milieu des autres. Cependant, lorsqu'il se trouve, c'est en lui-même, pas à l'extérieur de lui. Mozart. Tu me semblais une clé secrète pour ouvrir ses portes. Quoique par timidité je conservasse cette conviction au fond de moi, mon silence ne t'empêchait pas d'accomplir ton œuvre, me libérer, me convaincre que c'est en écrivant qu'on devient écrivain. Tout en achevant mes études, puis en menant ma tâche d'enseignant à l'université, je me suis donc cherché, heure par heure, page après page, au bout de ma plume. À l'heure actuelle, mes camarades sont avocats, ont fonctionnaires, ambassadeurs, ministres. Aucun n'a entrepris d'œuvre littéraire, bien qu'il n'ait pu s'empêcher de publier des livres. En réalité, c'est toi qui leur as manqué. Pour moi, hier comme aujourd'hui, Mozart demeure le nom de la résistance que j'oppose au monde. Mozart ou comment devenir soi-même. Toi, tu as souffert pour t'affirmer. Si ton père t'offre une formation précoce, exceptionnelle et complète de musicien, il n'ambitionne que de te voir compositeur de cour, avec un bon salaire, un poste de laquais, pas le statut de génie. Il ne t'imagine pas Mozart. Mais de quelle façon le pourrait-il? Bientôt, il ne parvient plus à suivre ton exigence musicale, incapable de soupçonner l'excellence à laquelle tu aspires. Vous vous éloignez. À sa mort, non seulement tu éviteras son enterrement, mais tu rédigeras une plaisanterie musicale, un pastiche qui rassemble les tics d'écriture que peut avoir un mauvais compositeur. Hommage ironique au père défunt. Aurais-tu créé autant si tu avais concrétisé son plan? N'as-tu pas gagné à claquer la porte, à t'inventer, compositeur libre, indépendant, le premier, courant après la commande, obligé de produire pour manger, t'habiller à ton goût, élever tes enfants, gâter ta petite femme, Constance.
On est au cœur du sujet. Trouver le chemin d'être soi-même.
Oui, on n'est jamais l'écrivain qu'on rêvait d'être. On est juste l'écrivain qu'on est. Et c'est pas facile.
Ne pas être ingrat par rapport aux racines, par rapport au passé, par rapport à ceux qui nous ont précédés, à ceux qui nous ont légués.
Ah, moi, je suis vraiment, par rapport au passé, dans un rapport de filiation réceptive, attentive. Je ne suis pas du tout dans l'idéologie de la rupture. Si j'ai eu envie d'écrire, c'est parce que j'ai lu de beaux livres, parce que je les ai étudiés. Je me ressource continuellement avec les auteurs que j'aime passionnément. Et je suis absolument contre cette idée qui a un peu encombré, je dirais, le XXe siècle, de l'inscription dans une histoire de la littérature avec forcément un progrès, avec forcément une rupture avec l'avant. C'est pour ça que moi, Mozart est mon héros, parce que Mozart, c'est la filiation. Bon, une filiation complexe par rapport à son propre père, mais une vraie filiation par rapport à tous les grands musiciens qu'il a rencontrés. Et voilà, pour moi, il faut s'inspirer, il faut imiter, il faut apprendre à reproduire, et puis après, trouver sa voix. Alors, moi, ça a été un grand problème dans ma vie, de trouver ma voix. Parce que, comme tous les gens doués, et j'imite très bien, et c'était même un jeu, un normal sub, je faisais des faux, des pastiches, etc. J'en fais toujours, j'en ai plein mes tiroirs, d'ailleurs. Et c'est comme un ordinateur sur lequel on brancherait un logiciel. Moi, vous mettez le logiciel Proust, le logiciel Chateaubriand, le logiciel Courteline, Guitry.
Et il continue d'écrire.
Et voilà, je fais un faux à la manière de... Et alors, du coup, cette espèce de virtuosité, comme ça, m'effrayait quand j'étais jeune. Parce que je me disais, mais comme disait Cocteau, à force de faire le caméléon, je vais mourir d'étouffement sur une couverture écossaise. C'est-à-dire que je n'ai peut-être pas de voix, je n'ai que la voix des autres. Et puis, je me suis mis à écrire. Et en me trompant, j'ai imaginé que j'étais un grand lyrique, par exemple. Et donc, je me cherchais du côté de Claudel, parce que j'avais une admiration éperdue pour Claudel, particulièrement le partage de midi. Et un jour, une amie, une grande amie intime, à qui j'avais confié quelques-uns de mes textes, m'a dit « Mais tu te prends pour Claudel, mais si tu étais Sacha Guitry ?» Et c'était une boutade, bien sûr, mais c'était une libération. Ça voulait dire « Deviens ce que tu es. » Cherche-toi là où tu es, pas là où tu veux être. Découvre-toi plutôt que invente-toi. Et donc, je suis à ce moment-là parti à la recherche de ma voix, de ma façon d'écrire, qui n'était pas forcément celle que j'admirais le plus. Parce que ma façon d'écrire, c'est une façon d'écrire très, très précise, très, très, très limpide, qui n'attire pas l'attention sur elle-même, que les comédiens reconnaissent comme très musical. Mais on peut ne pas le voir tellement le travail cache le travail et tellement ça a l'air simple. Donc c'était un risque d'avoir une écriture aussi, entre guillemets, limpide. Mais on ne va moi jamais critiquer là-dessus, au contraire. Même les gens qui ne m'aiment pas reconnaissent que quand même j'écris avec une vraie limpidité. Mais voilà, ce n'était pas forcément l'écrivain que je voulais être. Et puis je suis encore en découverte, c'est-à-dire que... Même si certains de mes livres m'habitent depuis des années et que j'ai encore à les écrire, je découvre aussi ce que j'écris au fur et à mesure.
Et l'outil, alors, qu'on soit dans le domaine de l'écriture ou dans tout autre domaine professionnel, qu'il soit artistique ou autre, cette recherche, c'est une complicité avec son intuition. Comment est-ce qu'on fait pour savoir si on se trompe ou si on est sur la bonne voie? C'est l'authenticité, se sentir bien, être en adéquation avec...
J'ai le sentiment que c'est bien quand j'ai l'impression d'être juste l'interprète de mes personnages, de mon histoire, d'un organisme comme ça, fictionnel, qui m'habite. Quand j'ai l'impression d'être simplement le scribe au service de ça... Ma seule préoccupation, c'est la justesse. Est-ce que c'est juste? Est-ce que ça sonne juste? Alors, il n'y a rien de plus irrationnel que la justesse, hein, à part en musique.
Mais vous parlez de cet art magistral comme une sorte de captation.
Oui, oui, j'ai l'impression... Moi, mon bureau, je ne l'appelle pas mon gueuloir, c'était l'expression de Flaubert, je l'appelle mon écoutoir. C'est une grande pièce.
C'est très joli.
Oui, mon écoutoir. C'est une grande pièce en haut de ma maison, avec, comme un atelier d'artiste, avec un ciel ouvert, et très silencieuse. Et j'ai l'impression de m'y replier comme une grande oreille et de me mettre à l'écoute des personnages, des histoires, à l'écoute de la pensée. En ce moment, je suis en train d'écrire des textes qui relèvent plus de... qui ne sont pas romanesques ni théâtraux, mais qui sont véritablement des textes de pensée. Et j'ai l'impression que je fais la même chose. Je me plie et je me mets en position d'écouter la pensée jusqu'à ce qu'elle soit claire, pure, précise et qu'elle ait évité toutes les choses trappes, toutes les ambiguïtés, qu'elle ne se soit pas fait avoir par le langage et qu'elle ça soit juste elle et pas les habitudes de pensée.
Un peu la posture d'enfance de l'écrivain.
Oui, c'est vrai qu'il y a une recherche de...
D'authenticité
et je dirais, mais il ne faut pas le prendre dans un sens banal, de naïveté. Au sens où...
C'est beau la naïveté.
Voilà, c'est-à-dire c'est en deçà des savoirs qu'on a. J'essaye souvent de refaire une expérience fondamentale. En ce moment, j'écris sur la Lune, par exemple. Et je me dis, tiens, qu'est-ce qu'un homme éprouve en face de la Lune, indépendamment des savoirs que chaque époque donne sur la Lune. Parce qu'à chaque époque, il y a des discours sur la Lune qui nous font penser que soit c'est un dieu, soit c'est un disque, soit c'est une planète, comme aujourd'hui, soit c'est un satellite, etc. Et je me dis, moi, qu'est-ce que je vois dans le ciel? Et à ce moment-là, j'essaye de refaire cette expérience fondamentale. Et à partir de là, je peux voir comment les discours et la pensée s'articulent sur cette expérience. Donc, c'est la recherche de la naïveté au sens que définissait Merleau-Ponty dans l'expérience artistique, c'est-à-dire aller en deçà des substrats idéologiques pour retrouver une expérience du monde et une expérience parfois aussi de la pensée dans son en deçà, c'est-à-dire retrouver les présupposés qu'elle amène immédiatement.
La Rêveuse d'Ostende est apparue avec ce très bel hommage au pouvoir de l'imagination.
Ah oui, je crois que l'imagination, c'est... on l'appelle la folle du logis, c'est très injurieux. Toute la rationalité occidentale méprise l'imagination, alors qu'en fait, tout ce qui est bien et grand vient de l'imagination. Aussi, tout ce qui est mal. Le problème, c'est que l'imagination n'a pas de morale. Voilà. Mais en tout cas, l'imagination, c'est vraiment...
Elle est libre.
Voilà, elle est libre et c'est la capacité de voir autre chose que le réel. C'est la capacité de faire des vraies hypothèses scientifiques ou littéraires ou poétiques. C'est la capacité de complexifier le monde, d'enrichir le monde en le décryptant. Alors, dans La Rêveuse d'Ostende, je montre à la fois ce pouvoir créateur et mortifère de l'imagination, avec des histoires de femmes dont l'imagination tout d'un coup embellit la vie parce qu'elle leur permet d'aller au-delà d'une malformité physique et de faire en sorte que les autres ne voient plus cette malformité physique. Ou alors c'est l'imagination qui tue, c'est-à-dire c'est le doute, c'est la jalousie imaginaire qui peut être un cancer, qui peut détruire une véritable histoire d'amour. Il y a un personnage qui me plaît beaucoup dans La Rêveuse d'Ostende, c'est un professeur d'histoire qui a refusé d'exercer son imagination et de lire de la littérature, etc. Et qui, tout d'un coup, coincé dans une maison en Ardèche, pique dans les affaires de sa cousine avec qui il est en vacances, un gros roman à suspense, un thriller épouvantable, vous savez, fait pour le marché, comme ça, ces espèces d'objets que les Américains nous apportent. Et une œuvre absolument mineure et absolument sans intérêt. Mais cet homme qui est tellement positif, au sens scientifique du terme, et qui ne croit qu'aux faits, qu'aux analyses, etc., tout d'un coup réveille cette imagination qui est en lui et commence à ne plus supporter d'être dans cette maison de campagne parce qu'il pense qu'elle était habitée, qu'il y a des choses étranges qui se passent, etc. Et lui, il va souffrir, au fond, de réactiver une imagination refoulée. Et ça va être très, très grave. Voilà. Donc,
alors, attention, danger. Ne refoulons pas
attention, danger,
nos imaginations.
Servons-nous notre imagination. Ne la refoulons pas, mais en même temps, faisons-en un bon usage parce qu'il y a un mauvais usage de l'imagination.
Alors, vous nous parliez de portraits de femmes. Il y en a aussi dans Odette Tout le monde,
oui,
et autres histoires. Odette et une autre Odette. Odette et Jean-Rémy Barland, dans le magazine Lire, ont écrit Odette et les 8 autres nouvelles dans lesquelles Eric Emmanuel Schmitt décrit l'humanité. Son recueil de nouvelles, Odette Tout le monde et autres histoires, touche au cœur comme à l'intelligence. Il y décrit des êtres secrètement blessés qui s'interrogent sur leur avenir en s'ouvrant à leurs semblables. Eric Emmanuel Schmitt possède l'art du dialogue autant que celui du portrait. Sa prose musicale donne matière à des fictions, aux dénouements surprenants, où dominent des personnages empreints d'une poignante humanité, souvent confrontés à la maladie, à la solitude ou à la mort de leurs proches. Ils tentent de se reconstruire en se noyant dans le regard salvateur d'autrui.
Il a touché l'essentiel de ce recueil. Parce que je fais mes recueils de nouvelles toujours comme un bouquet. C'est-à-dire, je mets les fleurs qui vont ensemble. Donc, je mets les nouvelles qui vont ensemble. Et là, c'était effectivement des femmes blessées qui vont retrouver le chemin de la vie. Pas forcément du bonheur, mais de la vie. Ou comment elles ont raté le chemin du bonheur. Parce que toujours, je crois que dans mon théâtre aussi, je raconte ça. Des personnages enfermés dans leur certitude, c'est-à-dire quelque part déjà mort. Et puis un événement, un accident, une chose étrange fait que ça se réveille en eux et ils peuvent peut-être se reconstruire.
Et là, en l'occurrence, Eric Emmanuel Schmitt, le personnage qui se remet en question, qui se met en marche, en réflexion, est celui de Ponce Pilate. Nous allons en effet retrouver ce personnage dans un extrait de votre pièce, L'Évangile selon Pilate, grâce à une captation réalisée par la COPAT, la coopérative de production audiovisuelle théâtrale. Et dans le rôle de Ponce Pilate, nous retrouvons Jacques Weber.
Et de toute façon, cette religion n'aura pas d'avenir. Elle est née dans un mauvais endroit. La Palestine, c'est une toute petite nation qui n'a ni influence ni importance dans le monde d'aujourd'hui. Et puis, Yeshua n'enseignait qu'à des analphabètes, des rudes pêcheurs du lac de Tibériade, car par Yohanan ne parle que l'araméen, très mal l'hébreu, à peine le grec. Et lui, il n'a rien écrit. Ben si, sinon sur du sable ou de l'eau. Les disciples non plus. Lui-même savait-il écrire? Non, sa grande faiblesse fut de partir trop vite, quoi. Il n'a pas pris le temps de convaincre ces gens. Et surtout des gens importants. Que ne s'est-il montré à Athènes ou à Rome? Pourquoi faire choix de quitter la terre si les fils de Dieu, comme il le prétend, il n'a qu'à demeurer parmi nous à jamais? Alors, immanquablement, mes raisonnements provoquent l'hilarité de Claudia. D'après elle, Yeshua n'avait aucune raison de s'installer, il suffisait qu'il soit venu une fois. S'il se montrait clairement, continuellement, il forcerait l'homme, or il a fait l'homme libre. Il nous aime trop pour nous contraindre, c'est parce qu'il nous aime qu'il nous donne à douter. Ouais. Non, moi, je suis toujours troublé par ce discours, mais jamais convaincu.
Éric-Emmanuel Schmitt, bien que vous vous teniez à l'écart du monde littéraire et politique, les prix ont commencé et continuent de pleuvoir sur vous. Alors, je citerai en 2004, vous avez reçu le Grand Prix du public à Leipzig, le Deuchter Booker Prize pour votre récit « Monsieur Ibrahim et les fleurs du Coran ». À Berlin, le prestigieux prix Die Quadriga pour votre humanité et la sagesse dont votre humour réussit à nourrir les hommes. Et en automne 2004, le magazine Lire a pu effectuer tout un sondage auprès des Français. Vous avez lu ce sondage?
Oui.
Pour qu'ils désignent les livres qui ont changé leur vie. Oscar et la Dame Rose, fait exceptionnel pour un auteur vivant, nous dit cette enquête du magazine Lire, se trouve cité avec la Bible, les Trois Mousquetaires et le Petit Prince. Quel hommage magnifique.
Ah, c'était bouleversé. J'étais bouleversé parce que je savais que Oscar faisait un chemin dans le cœur du public, parce que je recevais perpétuellement et je reçois toujours des courriers de gens me disant grâce à ce livre, j'ai la vocation de soit de me soigner, puisque des gens malades le lisent, soit de soigner les autres, soit de donner du temps aux autres dans ma vie. Donc je savais que ça provoquait des changements dans la vie des gens, ce livre. Mais je ne pensais pas que c'était à un niveau tel que ça apparaisse dans un sondage. Donc, c'est la plus grande récompense que j'ai jamais eue.
Alors, on peut dire toutes les œuvres d'utilité publique écrites par Éric-Emmanuel Schmitt sont publiées chez Albin Michel. Éric-Emmanuel Schmitt, après l'École normale supérieure de la rue d'Ulm et l'Université de Chambéry où vous avez enseigné la philosophie, vous avez envoyé à Edwige Feuillère le manuscrit de votre première pièce. Pourquoi ? Expliquez-nous.
Ah oui, mais j'étais totalement étranger au monde du théâtre. J'étais un spectateur en fait, mais au monde professionnel du théâtre. Et il se trouvait que Edwige Feuillère était une admiration commune de ma mère et moi. Et c'était même en fait une gâterie, une sucrerie que j'avais chaque fin d'année. C'est-à-dire ma mère disait « Tu as bien travaillé, je t'emmène à Paris, on va voir des pièces ». Elle se récompensait aussi, mais c'était une très bonne mère, elle avait le droit. Et on allait partager notre passion du théâtre en montant à Paris quelques jours. Et s'il y avait une pièce avec Edwige Feuillère, forcément, on allait la voir. Et moi, j'admirais cette actrice qui était une grande actrice littéraire, qui avait créé les textes de Cocteau, de Giraudoux, de Claudel. Elle ne servait pas toujours des textes de ce niveau-là, mais elle était toujours fabuleuse. Et voilà, j'écris ma première pièce, La Nuit de Valognes, une pièce sur Don Juan, le procès de Don Juan fait par ses victimes, ses anciennes victimes.
Et en tant que femme, Edwige Feuillère.
Voilà, et je me dis, mais comment faire jouer cette pièce? Et j'ai un réflexe, mais vraiment, mais bête, mais en même temps sincère. Je me dis, voilà, je vais l'envoyer à l'actrice que j'admire le plus. Et j'ai eu la chance inouïe de tomber dans un moment de sa vie où elle avait du temps pour lire, de tomber aussi sur une femme qui avait une vraie générosité. Elle a reçu La Nuit de Valognes par la poste, elle l'a lu, elle m'a tout de suite écrit une des premières lettres de notre correspondance en me disant que j'avais vraiment beaucoup de talent, qu'en travaillant, mais il fallait travailler beaucoup, je pourrais devenir, à mon avis, un auteur dramatique qui compterait dans les années à venir. À partir de là, elle s'est occupée de moi. Elle m'a trouvé un agent de théâtre pour m'introduire dans le monde du théâtre. Elle a appelé les grands directeurs de salles parisiennes pour qu'il lise ma pièce et qu'il la monte. Et voilà. Et donc, elle a été ma marraine de théâtre. Elle m'a ouvert les portes. Elle ne voulait pas jouer La Nuit de Valognes parce qu'elle trouvait qu'il n'y avait pas un rôle assez gros pour elle. Et fort heureusement, c'est Micheline Prel qui, à la création, a pris le rôle que moi, dans mon esprit, devait aller à Edwige Feuillère. Mais c'est elle qui m'a véritablement introduit dans ce monde qui m'était totalement étranger. Moi, même un agent, je ne savais pas ce que c'était. Quand mon agent de théâtre m'a parlé, elle me dit « je prendrai 10% de ce que vous gagnez ». Je lui ai dit « mais à l'université aussi ?» Tellement j'étais ignorant de toutes ces
réalités. La Nuit de Valognes, un succès immédiat.
Voilà, La Nuit de Valognes, un succès d'estime, parce que ça n'a pas été le triomphe du visiteur, mais un vrai succès d'estime. La presse qui me découvre, des gens qui disent « mais attention, une voix nouvelle est née ». Des comparaisons flatteuses avec Anouilh, Giraudoux, etc. Et puis, c'est vrai que c'est la deuxième pièce, le Visiteur.
Et elle s'est écrite très rapidement, Le Visiteur, par rapport à La Nuit de Valognes ?
Après, oui. Oui, il y a eu une pièce ratée que personne n'a lue entre. Parce qu'au début de ma vie d'écrivain, quoi qu'il arrive, j'allais jusqu'au bout. Donc, même quand une pièce était mal emmanchée, mal embarquée, je la finissais. Et après, je la faisais lire à mes intimes qui me disaient « Oh, oui, je disais oui, d'accord, j'ai compris. » Donc, Le Visiteur, par contre, a survécu aux critiques de mes proches, et fort heureusement. D'ailleurs, c'est là que nous sommes rencontrés, Virginie. Et tout de suite après, il y a Le Visiteur, et nous avons fait notre première interview ensemble. Et là, ça a été vraiment le début du succès, de la reconnaissance par le métier, par la critique.
Et pourtant, un sujet qui n'était pas tendance, hein, il faut le dire.
À l'époque, pas du tout.
Pas du tout.
Pas du tout. D'ailleurs, je me souviens que lorsque j'ai fait l'émission de Bernard Pivot, Bouillon de culture, mes producteurs étaient inquiets jusqu'à mon entrée sur le plateau en me disant « Surtout, tu ne dis pas le sujet de la pièce, ça va faire fuir tout le monde. »
Alors, on le rappelle, c'est Freud qui est visité par Dieu.
Peut-être Dieu.
Et peut-être Dieu, on ne sait pas.
Dieu peut-être.
Mais par un personnage.
Oui, oui, c'est à la fois Dieu sur le divan de Sigmund Freud et puis Sigmund Freud qui se met aussi sur le divan avec Dieu derrière. Donc c'est une idée qui m'était venue en regardant le journal de 20h, qui était déprimant comme très souvent. Et ce jour-là, j'étais pas seulement en état de réception intellectuelle, mais en état de réception affective. C'est-à-dire que j'étais bouleversé par les horreurs du monde, les souffrances d'enfants que je voyais, les famines qui s'entassaient, des guerres qui ne finissaient pas. Et je ressors du journal mais épuisé, lessivé émotionnellement. Et je me dis, oh là là, quand Dieu doit regarder le journal de 20 heures, ça doit le mettre dans un état. Et puis, évidemment, l'idée m'amuse. Et je me dis, oh bah oui, alors dis donc, Dieu, s'il fait une dépression, qui est-ce qu'il peut aller voir ? Ah bah oui.
Dieu en dépression.
Voilà, Dieu en dépression. Bah, Sigmund Freud, évidemment. Puis en même temps, tout de suite, je me dis, oui, mais alors le problème, c'est que Sigmund Freud ne croit pas en Dieu et que Dieu ne croit pas en Sigmund Freud. En tout cas, la thérapie freudienne avec l'analyse de l'inconscient, du rapport aux parents, du complexe d'Œdipe, ça ne marche pas du tout avec Dieu. Donc je dis, finalement, ces deux-là, comme aucun ne croit en l'autre, ils ont beaucoup de choses à se dire. Et le paradoxe m'amuse. Et après, je me rends compte, dans les jours suivants, que le paradoxe n'est pas simplement brillant, léger, superficiel, mais qu'il me permet à moi d'investir totalement ce champ-là en disant « Peut-on croire en Dieu encore aujourd'hui, au XXe siècle, dans un siècle qui a connu autant d'horreurs ?» Et Freud est à la croisée des chemins, puisqu'il est un juif quand les nazis envahissent Vienne. Il est un intellectuel quand la force domine. Et je me dis, tout d'un coup, là voilà, je suis à la croisée de notre monde et de nos interrogations, et je vais pouvoir faire un véritable procès de Dieu au sens classique de l'exercice philosophique. On appelait ça une théodicée. Leibniz en a écrit une fameuse. C'est-à-dire théodicée, dicée, procès, théo de Dieu. Voilà, comment croire en Dieu ? Est-ce que l'esprit critique nous condamne à ne pas croire en Dieu ou à y croire encore et peut-être. Alors, c'est une pièce sur le mystère, sur le fait que Dieu n'est pas démontrable, Dieu n'est pas l'objet de la démonstration rationnelle, l'absence de Dieu non plus, Dieu est l'objet de foi.
Et le public a suivi.
Oui, d'une façon exceptionnelle, violente, inattendu.
Le thème répondait à une attente, à une demande, à une question existentielle.
Oui, et surtout la pièce était respectueuse de l'interrogation comme des réponses. C'est-à-dire que dans la pièce, on entendait la vraie souffrance de l'athée et on entendait aussi la vraie possibilité de croire quand même et encore. Il y avait toutes les voies. Et je me souviens que les Juifs sortaient de la pièce en me disant « c'est une méditation hassidique », parce qu'il y a cet esprit léger d'encens du hassidisme. Je me souviens que les chrétiens me disaient mais c'est pascalien. Et les athées me disaient « j'ai entendu mon angoisse, ma souffrance, ma douleur ». Donc en fait, tout le monde entendait sa voix, mais en même temps, tout le monde entendait la voix de l'autre. Et c'était en fait, j'avais trouvé le dispositif qui était le mien, dispositif d'écriture, qui est de remonter à la question, toujours à la question, puisque la question nous rend semblables et nous rend frères, et ensuite d'aller voir les réponses, mais toujours dans le respect.
Dans le respect, ne pas vous enfermer dans des certitudes.
Oui, je ne suis pas un écrivain contagieux, je ne suis pas un écrivain qui veut convaincre, je ne suis pas un écrivain qui veut qu'on partage.
Et qui crée des frontières de ce fait.
De ce
et
fait,
qui s'enferme. Voilà. Donc, dans chacune de vos œuvres, il y a des analyses, des chemins qui sont avancés, exposés, des initiations de vie que vous offrez à notre réflexion. Mais tout est laissé au bon vouloir, à la réflexion de chacun d'entre nous qui s'empare de l'une de vos œuvres.
Oui, j'ai horreur des écrivains qui font des machines de guerre pour convaincre les autres de penser comme eux. Moi, je fais des machines d'interrogation. Je mets en place des problématiques et j'essaye d'approfondir la problématique. Parce que pour moi, la philosophie, ce n'est pas l'art de répondre, c'est l'art de questionner. C'est questionner toujours plus finement, toujours plus précisément. Alors, il se trouve qu'après, dans nos vies, on ne peut pas rester simplement à l'état de question. Dans nos vies, on a besoin de réponses provisoires, on a besoin de réponses hypothétiques, on a besoin d'affirmer des valeurs pour pouvoir avancer. Alors ça, je le prends en compte aussi. Mais moi, mon travail, c'est de rendre la question claire, compréhensible, de retrouver la question sous les réponses.
Mais vous avez écrit, pour moi, la philosophie n'est pas une finalité, c'est un instrument pour raconter la vie. Je ne veux pas limiter l'esprit à la pure raison. C'est souvent là l'erreur de l'intellectuel philosophe. La vie de notre esprit passe aussi par l'imagination, on en parlait tout à l'heure, le cœur, le sentiment, les valeurs. La rationalité n'en est qu'un petit pan. C'est pourquoi je revendique un théâtre d'émotions. Je n'ai pas peur de l'émotion, j'y vois un facteur de la vie intellectuelle. Les grands chocs émotifs peuvent nous faire évoluer. Le coup de théâtre émotif est aussi un coup de théâtre spirituel.
Oui, c'est un véritable mea culpa que je fais dans ce texte en disant j'ai été un rationaliste qui croyait à la pure rationalité et qui ne pensait que l'esprit n'était qu'intellect. Et puis je me suis rendu compte que non. Et à partir de ce moment-là, j'ai toujours cru à la rationalité et à l'intellectualité, mais j'ai laissé mon esprit se nourrir de l'expérience artistique, de l'expérience humaine. J'ai accepté de penser que parfois mes impératifs moraux n'étaient que des valeurs morales qui valaient pour moi absolument, mais qui peut-être ne valaient pas pour les autres. J'ai accepté aussi la suscitation religieuse, la suscitation de l'expérience mystique naturellement en moi, mais la suscitation aussi du texte sacré qui apporte une lumière non pas naturelle, c'est-à-dire rationnelle, mais une lumière révélée. J'accepte cette suscitation, j'accepte ce qui est étranger à la raison, mais en même temps, je le remets dans le creuset de la raison, de mon esprit, mais surtout un esprit qui ne se ferme pas, un esprit qui est toujours ouvert à l'expérience, et un esprit qui, quand il affirme quelque chose, sait qu'il n'est pas forcément dans la rationalité, il est peut-être dans l'expression d'une valeur, d'un sentiment, d'une croyance, avec l'humilité et la modestie qui consiste à dire « attention, là, j'affirme quelque chose qui n'est peut-être pas vrai, qui est juste vrai pour moi, dans le temps où je l'affirme ».
Éric-Emmanuel Schmitt, merci d'avoir partagé ce temps de parole en complicité avec les auditeurs de Canal Académie. Merci.
Merci beaucoup.
Éric-Emmanuel Schmitt, nous vous retrouvons la semaine prochaine pour la dernière des 4 émissions que vous consacre actuellement Canal Académie. Au revoir.